viens de sortir ma troisième bande dessinée. J'en ai publié deux, donc deux auparavant. La première, c'est l'histoire de, c'est un contexte historique. C'était l'histoire d'un officier russe qui partait en Asie centrale, donc l'actuel Ouzbékistan, au début du XXe siècle, en fait, un petit peu pour y faire ses preuves. Et il a envie de. Et il se retrouve confronté à une réalité qui le. Qui lui surprend, en fait. C'est le premier. Le deuxième, c'était une sorte de western qui se passe en Patagonie, toujours dans les mêmes années, 1910, comme ça. Donc ça m'intéressait de parler en fait, d'une sorte de terre américaine où les immigrés européens sont encore, se souviennent encore beaucoup de leur passé européen. Il y a eu pas mal d'immigration juive en particulier là-bas, donc ça m'intéressait de parler de ça, l'immigration italienne aussi. Et très peu de descendants de colons espagnols. Mais par contre, tout le monde se retrouvait à parler espagnol. Donc voilà, c'est une terre, et puis une éradication d'Indiens aussi. Mais c'est pas les mêmes que les Cheyennes, les Apaches. C'est ça qui m'intéressait, c'est une sorte de western sud-américain. Et donc là, je viens de sortir la troisième qui se passe de nos jours. C'est un père. Qui part avec sa fille de 13 ans travailler dans un pays dans le Grand Nord, un pays inspiré du Canada. Voilà, je me suis inspiré en particulier de l'exploitation des sables bitumineux au Canada, qui est en fait une exploitation. On va dire pas très propre pour un petit peu d'euphémisme pour extraire le pétrole en fait.
D'accord. Explique-nous un petit peu, donc avant la parution de ton premier album, ton parcours d'auteur de BD. Comment tu t'es lancé là-dedans ?
Alors moi, j'ai pas du tout. Je suis complètement autodidacte, j'ai toujours eu le dessin qui est resté présent.
Ça remonte à quel âge ? À partir de quel âge ?
En fait. je pense que tous les enfants maternels ont le dessin comme première écriture et comme un des modes d'expression. Et en fait, ce mode d'expression-là, on le perd en fait après. Et les autres personnes, ils le gardent en fait. Voilà. Donc je pense que c'est tout. En fait, c'est juste que moi, c'était un mode sur lequel je me retrouvais. Et c'était le dessin, c'était un moment où j'arrivais à être à la fois recentré sur moi-même et puis en même temps en train de, puisqu'on est dans le figuratif, d'être avec un peu les autres, mes autres imaginaires, et c'est vrai que c'était quelque chose qui me convenait. Et voilà, quoi, c'est parti comme ça.
Tu travailles toujours, enfin tes deux premiers albums sur des contextes historiques bien, bien particuliers. Il y a un travail de documentation, de recherche.
Oui, alors effectivement, c'est toujours sur les deux premiers, donc qui sont plus des contextes historiques. Il y a de la doc à chercher. Ça a été d'ailleurs assez compliqué parce qu'en fait, l'Asie centrale vers 1900. Il y avait quand même quelques photos qui ont été prises donc essentiellement par les Russes en fait, qui sont arrivés là 30 ans avant. Donc j'avais quelques images de Samarkand, de Tashkent, etc. qui ont pu m'aider à me documenter, à la fois pour les décors et puis pour les costumes, quoi. En revanche, sur la Patagonie, là j'avoue, je suis allé dans une librairie spécialisée sur la culture sud-américaine, et j'ai acheté un bouquin et dedans il y avait trois photos. Et donc il a fallu que je brode un peu là-dessus. J'avais très très peu de sources sur les images des Indiens Mapuches, choses comme ça à cette époque-là.
Alors la bande dessinée s'est beaucoup développée ces dernières années, ces dernières décennies. D'un point de vue européen, alors tout le monde connaît l'école belge, les écoles américaines. En France, il y a énormément d'auteurs justement qui apparaissent, de plus en plus de salons qui se passent. Là, cet après-midi, il y en a un à Seine-Nienval, il y en a un à Beaugency, il y a évidemment Blois, BD Boom à Blois, à Angoulême évidemment que tout le monde connaît. Comment tu expliquerais, toi, cet essor de la bande dessinée ? Qui est devenu même le 7e ou le 9e, 7e art, je sais plus.
9e.
Le 9e art. Qui est enfin reconnu comme un art d'ailleurs.
Bah, c'est que depuis, on va dire presque, l'essor a été donné, je pense, il y a une petite trentaine d'années déjà. Enfin, il y a des. Ouais, bon. Disons que je pense que la BD s'est énormément diversifiée par rapport à ce que la bande dessinée à papa des années 60, même début des années 70, où là, effectivement, on avait un public ciblé, un modèle de BD d'aventure, choses comme ça, c'était très. Et en fait, on s'est rendu compte que. Bah, c'était un moyen d'expression qui était quand même très très complet, qui permettait juste avec une feuille et un crayon de faire énormément de choses. Et du coup, tout en restant, même en restant uniquement dans le modèle franco-belge, on a une palette d'histoires racontées, d'univers, que ce soit du documentaire, que ce soit de la SF, que ce soit. Enfin, on est parti sur de l'autobiographie, on a vraiment énormément diversifié les différentes branches en fait, de la bande dessinée, et du coup, le public s'en est trouvé forcément élargi. Donc, ça, c'est. Clairement, je pense que c'est un des points qui explique ça. Et le deuxième, je pense qu'on est quand même énormément dans une culture de l'image. Et la bande dessinée fait encore un trait d'union, je pense, entre la culture du livre et la culture de l'image, en fait. On est vraiment entre... Il y a des passerelles, des fois, entre jeux vidéo et BD, mais il y a aussi des passerelles entre BD et littérature. Donc, elle se trouve, c'est un art populaire, mais qui peut être parfois tiré vers un côté plus sérieux et qui peut être aussi tiré vers un côté ludique. Et je pense que c'est aussi pour ça. Elle trouve sa place, en fait, dans ce... Dans notre monde culturel, il y a profusion d'offres, mais il y a toute sa place comme ça, je pense.
Comment tu qualifierais ton genre de BD, justement ?
Alors,
tu mettrais dans quelle case ?
Mon genre de BD, là, du coup, un peu évolué par rapport aux deux premiers. Donc, les premiers, j'aurais qualifié d'historique, même si j'ai m'intéressais plus à des parcours de personnes plus qu'à la grande histoire, on va dire. J'ai un dessin qui pourrait s'approcher de Tardi, on va dire, donc c'est assez, assez classique. Je sais pas trop, en fait. C'est dans quel... la dernière, c'est un polar écologique. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui peut... On pourrait les ranger dans ces... dans cette branche-là.
Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cet album, là, de ce troisième album ? Quand c'est que tu t'es dit, tiens, je vais faire un nouvel album ? Et puis après, les différentes phases, justement, de création.
Alors, je voulais, là, pour le coup, je voulais vraiment faire quelque chose d'actuel, qui parle de notre monde, monde contemporain. Sans en faire que quand même, parce qu'on a vite fait d'écrire un récit qui soit assez plombant, assez dur de faire quelque chose de léger sur le monde actuel, mais je voulais pas que ce soit quelque chose où enfin le bouquin se dit bon, il n'y a plus qu'à se tirer une balle. Je suis parti sur ce côté écologique là, donc c'est la forêt boréale qui est rasé pour pouvoir en extraire le pétrole, des sols. Et en contrepoint, j'ai mis en place le personnage de cette jeune fille là, qui a 13 ans, qui se retrouve un petit peu toute seule parce que son père bosse tout le temps en fait, dans ces exploitations là. Et donc cette jeune fille qui va rencontrer un gars un peu foutraque qui fait des sculptures, qui fait des totems. Et voilà, mettre un petit peu, faire un contrepoint entre ce monde dur qui fait juste qui cherche à exploiter les ressources sans voir ce qui va se passer le lendemain, et puis donc un côté un peu plus politique qui fait contrepoint pour cette histoire. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, là il peut y avoir quelque chose, c'est-à-dire raconter quand même un désastre écologique sans être trop noir, en fait.
Alors ça, c'est l'idée, c'est l'histoire. Tu es auteur, comment ça se passe après, donc, une fois que l'idée est là, comment ça se passe ensuite?
Alors, on monte tout le projet, c'est-à-dire qu'on va...
Alors, tu travailles avec qui?
Alors, quand je dis on, pour l'instant, c'est encore je.
Ah ouais, d'accord.
C'est-à-dire, je construis les personnages, je les dessine, je leur fais une petite histoire généralement, et je commence à dessiner les 5 premières planches, une dizaine de planches, les premières scènes. Et donc, tout ça va constituer un dossier où il y aura donc le synopsis de l'histoire, l'histoire en 2 pages, quelques personnages et puis les premières planches, éventuellement un petit peu de doc à côté, des documentations, etc. Et on envoie tout ça aux éditeurs, voilà. Et souvent on fait ça sous forme d'un PDF, hein, voilà. Et l'éditeur, normalement, il est censé, son travail c'est de reconnaître une histoire potentielle qui pourrait convenir à sa maison d'édition, qui serait intéressant, etc. Et donc là, il y a l'éditeur Sarah Paken qui a répondu présent. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, on va travailler ensemble. Donc, on sait que la BD va se faire. Et là, le travail de l'éditeur, ça va être effectivement de demander à l'auteur de retravailler son histoire, de pointer certains points un peu incohérents. Il y a vraiment... En partie, surtout sur l'élaboration du scénario, un aller-retour entre l'auteur et l'éditeur qui est assez important et à mon avis qui est assez indispensable en fait, hein, parce que on travaille quand même beaucoup tout seul et donc si on n'a pas de regard extérieur, on peut vraiment se tromper. Mmh. Tous les éditeurs ne travaillent pas forcément de cette manière-là. Il y en a certains qui laissent l'auteur un peu plus vagabonder ou aller à son idée. Moi, je pense que ça fait partie du travail de l'éditeur aussi de mettre un petit peu son nez. Et puis, je pense que ça bonifie l'histoire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est mis d'accord sur le scénario. Après, moi, je réalise un storyboard. Donc, le storyboard, c'est, on va dire, une sorte de brouillon de la bande dessinée où tout est déjà calé, sauf... Enfin, c'est vraiment dessiné très vite, hein, si... S'il y a un plan, il y aura les décors sont très 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 esquissés, ça peut être juste 3-4 lignes. Pareil, donc on a un échange avec l'éditeur sur le storyboard, il faut qu'il puisse être lu par une autre personne. Alors l'éditeur fait parfois lire à plusieurs personnes d'ailleurs pour voir. Et une fois que le storyboard est accepté, on y va pour le dessin. Donc moi je travaille encore à l'ancienne, donc c'est bien papier. Ma grande feuille qui est un peu plus qu'un format A3, et puis après je fais d'abord un crayonné. Une fois que je suis content de ce que j'ai fait, donc au crayon de papier, là je fais l'ancrage. Une fois que j'ai l'ancrage qui est à langue de Chine, on va dire, et puis après je fais certains noirs au feutre, et ensuite je finis avec une aquarelle pour mettre de la couleur. Voilà. Donc il faut être marié à la fois, on va dire, à un souci, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit efficace dans le terme de récit, et il faut être, faut pas perdre de temps, parce qu'il faut avancer dans le. Moi je faisais à peu près 3 planches par semaine, donc il faut les. Voilà, il faut être aussi efficace. Quoi.
D'accord, c'est passionnant, non? Enfin, j'imagine que c'est une passion.
C'est super, hein, parce que c'est vrai que il y a quelques étapes qui sont parfois un petit peu dures, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, etc. Mais c'est vrai que par exemple, quand on a construit le storyboard, on se dit toute la BD est là, on sait où on va, toutes les lignes de dialogue elles sont posées. Maintenant c'est juste de l'exécution. Et en fait, ce qui est super, c'est que même si on connaît tous les ressorts de l'histoire, etc. Il va encore se passer des choses au dessin, c'est-à-dire que on va travailler les expressions des personnages, leur position, etc. On sait que lui, à tel moment, il est plus en retrait contre l'autre, et donc du coup, on va pouvoir mettre ce qu'on a imaginé dans ce storyboard, on va pouvoir le faire vraiment l'incarner dans les positions des personnages, leur expression, et on rajoute une couche réellement au dessin aussi. Mmh.
Dans ton dernier album, tu abordes la question écologique, c'est quelque chose qui te préoccupe, ça?
Carrément, ouais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde maintenant qui commence à s'en préoccuper, quoi. Et, euh, et heureusement, mais on avance vraiment un tout petit pas. Oui, c'est une question qui me porte à cœur. J'essaie de rester quand même positif et de pouvoir vivre dans ce monde en espérant que ça se poursuive bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte à cœur.
Par rapport à tes deux précédents albums, j'ai l'impression que tu mets plus de toi, justement. Tu parles de tes préoccupations, un polar écologique. En même temps, c'est quelque chose qui te préoccupe. Contrairement à des choses qui se passaient dans les années 1900, c'est beaucoup plus contemporain et j'allais dire militant quelque part, non, aussi. Cette dimension-là, ce troisième album.
Ce troisième album, il est sûrement plus politique, effectivement, par justement ce caractère écologique, etc. Et aussi, alors j'ai essayé d'éviter quand même le travers du militantisme. Je pense que du militantisme, je peux en faire ailleurs. Mais ce ne sera pas forcément... je ne vais pas chercher à convaincre, en fait. Je vais chercher à raconter une histoire. Ceci dit, effectivement, il a un contexte politique et il raconte... j'ai mis en image une de mes angoisses, quoi, clairement. Mais pour revenir au précédent, le tout premier, même s'il avait effectivement un ancrage historique, en fait, parlait de... en fin de compte... d'un jeune homme qui allait être confronté à une réalité qui n'attendait pas, et en fait ça en dehors du contexte historique, on pouvait retrouver en fait des choses qui me travaillaient aussi, en fait. Une manière de plus on va dire moins politique et plus psychologique, en fait.
D'accord, ok. T'es sur un projet là?
Oui, là j'ai du coup l'éditeur Sarbacane avec qui j'avais signé le polar écologique. Je m'a fait confiance pour un deuxième album, chez eux. Et donc là c'est quelque chose qui va se passer en Russie. Je suis tombé sur un reportage de néo-ruraux russes qui sont installés sur une île sur la Volga. Et ça m'intéressait de travailler sur des gens qui sont trentenaires, ils n'ont pas réellement connu l'ère soviétique. Et ils sont en train de réinstaller une sorte de collectivité, donc voilà, c'est une sorte de faux kolkhoz sous l'ère de Poutine, ça m'intriguait. Et donc je suis parti là-dessus, et puis il y aura... c'est un pays qui m'intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très bien et beaucoup de choses assez terrifiantes. Et ce sera donc aussi un polar, en fait.
J'ai l'impression que tes albums permettent toujours de découvrir via... Alors, il y a l'aspect fiction, évidemment. C'est pas des histoires vraies, on n'est pas dans de la BD journalistique. Mais quand même une sensibilisation à certaines époques, à certains faits, à certains modes de vie humains. En tout cas, c'est très dépaysant. Et en même temps, ça permet de faire connaître des choses que le lecteur ne connaissait pas forcément. Alors là, les sables bitumineux, il y en a qui savent, mais peut-être qu'il y a des lecteurs aussi qui vont être sensibilisés à cela. Et comme là, pour ton prochain album, pareil, ce que tu appelles des néo-ruraux, des faits de société que tu fais connaître via ton art.
Ça fait partie de mes plaisirs de lecteur qu'on m'amène quand même dans une zone que je ne connais pas, quoi. Donc même sans que ce soit de la BD documentaire, effectivement je trouve ça chouette d'emmener le lecteur vers quelque chose qui connaît pas ou peu. Effectivement, sur les sables bitumineux, il y a des personnes qui connaissent, mais il y a aussi pas mal de gens qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même bien loin, bien dans le nord du Canada, et du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour observer ce qui se fait. Ce que je vais montrer là sur ces néo-russes, moi ce que j'ai pu en lire et voir un petit peu, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est un peu notre planète, la Russie, mais ces jeunes, ils ont en fait beaucoup beaucoup de choses en commun avec les interrogations que nous on peut avoir du côté occidental là de l'Europe. Et c'est vrai qu'on se tourne toujours, il y a beaucoup d'auteurs français qui se tournent pour raconter l'histoire aux États-Unis. Je pense que c'est très bien aussi. Et moi, j'ai envie de me voir aussi un peu ailleurs que de rester un peu dans une, de rester en Europe. En fait, ça me paraît sympa aussi important et cette dimension documentaire, effectivement, je pense que ça apporte aussi des éléments narratifs, etc., qui font partie du plaisir de lecture. Oui.
Alors cet après-midi, tu vas aller à un festival de bande dessinée à Saint-Denis-en-Val, Bulle-en-Val. Tu en as déjà fait des festivals ?
Alors oui. J'ai Bulle-en-Val, je l'ai fait il y a très longtemps. Du coup, voilà, comme le tout premier album, c'était il y a 16 ans, hein, déjà. Et bien, je me demande si j'ai pas participé à la première édition de Bulle-en-Val, en fait, parce que là, c'est leur 17e année. Donc, il faudrait que je vois ça avec les gens de l'association. Oui, j'ai déjà fait des festivals. Par contre, cette année, j'ai fait un festival d'Angoulême, qui est un chouette endroit, assez impressionnant, où il y a beaucoup de monde. On entend parler japonais, américain, espagnol, italien. C'est impressionnant. Et en dehors du monde aussi, il y a des expos, par exemple. Au moment des festivals, ça peut être l'occasion de voir des originaux d'auteurs, choses comme ça, découvrir le travail au plus près avec les expositions des planches originales.
Tu aimes bien ces échanges avec tes lecteurs ?
Ah oui, alors c'est vrai que le temps d'une dédicace, des fois le temps peut être court, mais parfois en 5 minutes on arrive à se dire des choses chouettes. Donc c'est quand la dédicace dure longtemps que à la fin ça tire un peu. Parce que des fois on peut arriver quand la dédicace aussi une après-midi et on peut donc effectivement fatiguer. Mais non, c'est plutôt un moment sympa, oui.
Alors, j'imagine que c'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues, d'autres auteurs, scénaristes, dessinateurs. Pour l'instant, tes albums, donc tu l'expliquais, tu fais le scénario, tu fais le dessin, tu fais l'aquarelle. Est-ce que tu envisagerais une collaboration sur un futur album avec une autre personne ?
Je pense que oui, ouais. Maintenant, je suis... Il faudrait que ce soit quelqu'un en qui j'ai... vraiment confiance. Il faudrait vraiment que qu'il arrive à bien m'expliquer les différents personnages, leurs objectifs, les enjeux qu'il y a derrière. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, au moment du dessin, vraiment de la mise en scène, comment on va positionner les corps, comment on va les mettre en jeu, et à la fois les corps, les expressions, etc., il doit se passer beaucoup de choses. Donc il faut vraiment que le dessinateur ait bien compris ce que veut dire le scénariste pour chaque personnage, les différentes personnalités. Mais oui, carrément, oui. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal de travailler tout ça, parce que on sait où on va, on n'a pas besoin, normalement il n'y a pas trop de déficit de communication à l'intérieur de sa propre tête, mais c'est vrai que travailler avec une autre personne, ça va permettre de s'enrichir.
Oui, il n'y a pas de déficit, tu arrives à t'en sortir justement, quand tu dis il n'y a pas de déficit de communication dans sa propre tête. Les difficultés que tu peux rencontrer, c'est quoi ?
Donc je suis sur le storyboard là pour la nouvelle, et alors c'est à la fois un peu storyboard des scénarios, parce que j'avais encore des points de scénario que j'avais pas complètement écrits. Et il y a des moments, c'est pas ce que j'aime le plus, parce que ça peut être bien prise de tête. Il y a certaines scènes, en fait, on sait clairement qu'elles ont déjà été racontées de cette façon-là, déjà au moins une vingtaine de fois ou une centaine de fois, et donc du coup, il faut chercher quand même quelque chose de nouveau, il faut trouver une nouvelle façon de faire, en fait, parce que souvent les trames des histoires, c'est pas là qu'on va vraiment trouver leur génialité, mais c'est plutôt dans la façon dont il va raconter l'histoire. Et c'est là qu'effectivement ça peut être un peu tourner un peu en rond.
D'accord. Et quels sont les auteurs, toi, que tu apprécies? Enfin, les auteurs que tu apprécies.
Ah bah dans les historiques, moi, il y a toujours Hugo Pratt, hein, qui reste quand même un peu une référence absolue. Plus récemment, j'aime beaucoup, par exemple, David B. Ou Emmanuel Guibert, celui qui avait fait Photographe, là, qui se passe en Afghanistan. Lévis Trondheim, moi j'aime beaucoup toujours ce qu'il fait. Je lis ses BD avec mon fils et je trouve qu'il y a avec ses petits personnages là dans la série Rapazam, il dit des choses importantes en fait. Ça c'est quand même assez fort. Ouais.